Chapitre 30. Éblouie par la lumière de la lanterne, Anna plissa les yeux pendant que la mort de Sitt entrait dans sa cellule, les épaules baissées afin de ne pas se fracasser le crâne contre l'encadrement de la porte. Au début, la dame abbesse reconnut seulement l'uniforme de cuir rouge et la natte blonde. Quand elle se demanda ce que pouvait bien lui vouloir une des tristement célèbres tortionnaires du seigneur Rall, la réponse lui fit froid dans le dos, et partout ailleurs, pour être honnête. Richard n'était pas du genre à conserver une unité de bourreau d'élite, mais il était absent, et Nathan avait pris le pouvoir au palais du peuple. À force de plisser les yeux, Anna reconnut sa visiteuse. C'était Nida, la femme qui l'avait arrêtée. Après avoir froidement étudié la vieille femme, la mort de Sitt s'écarta pour laisser passer l'homme qui la suivait. Un vieux séducteur aux longs cheveux blancs, encore plus grand que Nida, et donc contraint de se plier en deux pour franchir le seuil du cachot. Anna le reconnut dès qu'il releva la tête.
« Anna !»
s'écria Nathan. Il écarta les bras comme s'il pensait que la dame abbesse allait s'y jeter.
« Nida m'a transmis ton message. Tu es bien traité, j'espère. »
Anna foudroya le prophète du regard.
« Disons que je suis toujours vivante et que ce n'est sûrement pas grâce à toi. »
Nathan n'avait jamais paru petit à Anna, mais dans cette cellule, alors que son crâne touchait presque le plafond, il avait l'air d'un géant. Depuis qu'il ne vivait plus en captivité, sa musculature s'était développée et ses épaules avaient encore gagné en largeur. Chaussé de bottes montantes, il portait un pantalon marron, une chemise blanche à jabot de dentelle et une élégante jaquette également marron. Une fort jolie cape verte en velours était attachée sur son épaule droite et une superbe épée glissée dans un fourreau de luxe battait sur sa hanche gauche. Revoir son beau visage émut tellement Anna qu'elle en eut des palpitations cardiaques de jeune pucelle. Nathan fit à la dame abbesse un sourire typiquement râle, un mélange d'authentique joie, de féroce appétit de vivre et de goût immodéré du pouvoir. En cet instant, le prophète avait l'air d'un galant qui entend enlacer une jeune beauté et l'embrasser sans sa permission.
« Tu ne risquais rien ici, ma chère. » dit-il en désignant la cellule d'un geste circulaire. « Pendant que nous veillons sur toi, nul ne peut t'ennuyer ni te faire du mal. As-tu la moindre critique à formuler sur la nourriture? Et le vin, n'était-il pas bon chaque fois qu'on t'en a servi? Qu'aurais-tu pu vouloir de plus ?»
Les poings plaqués sur les hanches, Anna avança avec une vigueur qui inquiéta Nida. La mort de Sitt ne bougea pas, mais d'un coup de poignet, fit voler son agiel dans son poing. Nathan ne broncha pas et continua à sourire.
« Ce que j'aurais pu vouloir de plus ?» cria Anna. « Tu oses me le demander ? Sortir de ce trou puant, voilà ce que j'aurais voulu. »« Sans blague !»
feignit de s'étonner Nathan avec un petit sourire ironique qui coupa tous ses moyens à la dame abbesse. Pétrifiée, elle dut se contenter de foudroyer du regard le vieil empêcheur de tourner en rond. Si elle commençait à polémiquer, elle apporterait de l'eau à son moulin.
« Quel message lui avez-vous transmis ?»
demanda Anna à la mort de Sitt dès qu'elle fut de nouveau capable de parler.
« Nida m'a dit que tu voulais me voir, »
répondit Nathan.
« Et me voilà. Pourquoi désirais-tu me rencontrer, très cher ?» « Ne joue pas les idiots avec moi, Nathan. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. »
Le prophète croisa les mains dans son dos et cessa de sourire béatement.
« Nida, »
dit-il à la mort de Sitt,
« tu veux bien être gentille et nous laisser seuls un moment. »
La blonde en cuir rouge évalua Anna du regard et conclut que le prophète ne risquait rien. Nathan était un sorcier. Le plus grand de tous les temps, avait-il sans doute dit à la mort de Sitt. Et il résidait dans la demeure ancestrale des Râles. Une vieille magicienne ne pouvait rien lui faire, c'était évident. sur un regard indiquant qu'elle ne serait pas bien loin en cas de besoin, Nida sortit de la cellule avec une grâce et une souplesse de félin. Sans changer de posture, Nathan attendit la suite du discours d'Anna. La vieille femme alla s'asseoir au bout du banc de pierre qui lui servait de lit, de chaise et de table. Elle s'empara de son sac de voyage qu'on lui avait obligeamment laissé, l'ouvrit et en sortit un objet métallique.
« Nathan, j'ai quelque chose pour toi, »
dit-elle en se tournant vers le prophète. Elle brandit le radahan qu'elle avait eu l'intention de lui passer autour du cou. Mais comment avait-elle pu croire un instant qu'elle serait capable d'accomplir un tel exploit? Eh bien, elle l'avait cru parce que rien n'était hors de sa portée quand elle décidait de s'y mettre à fond. Voilà de quel bois était faite Annalina Alduren, la dame abbesse des Sœurs de la Lumière. Enfin, l'ancienne dame abbesse, car aujourd'hui c'était Verna qui occupait ce poste.
« Tu veux que je mette ce collier autour du cou ?»
demanda Nathan.
« Et tu crois sérieusement que je vais le faire ?»«
Non, Nathan, je veux seulement te le donner. J'ai beaucoup réfléchi depuis mon incarcération. L'idée de ne plus jamais sortir de ma cellule m'a torturé jour et nuit. »
« Quelle curieuse coïncidence !» s'exclama le prophète. « J'ai eu ce genre d'idée fixe à une époque. »«
Je m'en doute, oui. »
Anna tendit le radahan à Nathan.
« Prends-le. Je ne veux plus jamais voir un de ces horribles objets. À l'époque où je croyais agir pour le mieux, je détestais déjà cette situation, Nathan. » Te garder comme un oiseau en cage me brisait le cœur. Aujourd'hui, je me demande si ma vie n'a pas toujours été un gâchis. Pardon de t'avoir enfermé derrière un champ de force, mon ami. Si je pouvais tout recommencer, je ne suivrais pas le même chemin, tu peux me croire. Sache que je n'attends aucune clémence de ta part, car j'ai été impitoyable avec toi.
Impitoyable, oui. C'est bien le mot.
Le regard vert de Nathan sembla plonger au plus profond de l'âme d'Anna. Encore une caractéristique d'Erral, et Richard en avait hérité.
« Si je comprends bien, tu regrettes de m'avoir fait passer ma vie en prison? Mais sais-tu pourquoi c'était une erreur, Anna? Mesures-tu à quel point c'est paradoxal ?»«
Comment ça, paradoxal ?» demanda Anna.
Une question qui avait jailli de ses lèvres avant qu'elle ait pu réfléchir. Et maintenant, Nathan la tenait.
« Eh bien, sais-tu pour quelle cause nous combattons ?»«
Bien sûr que oui, et tu le sais aussi d'ailleurs. »«
C'est vrai, mais es-tu sûr d'avoir vraiment compris ?»« Si c'est le cas, parle-moi de ce que nous cherchons à protéger, à préserver et à maintenir en vie. »
« Le don et la magie, qui sont de précieux cadeaux du Créateur, nous luttons pour que l'un et l'autre continuent d'exister dans ce monde, et nous défendons le droit à l'existence de ceux qui naissent avec le pouvoir, car nous voulons qu'ils explorent et développent leur potentiel. »
« Et tu ne vois rien de paradoxal là-dedans? Toute ta vie, tu as eu peur du pouvoir pour lequel tu es prête à te battre jusqu'à la mort. Aux yeux de l'ordre impérial, le don est une malédiction pour l'humanité, et il convient de l'en débarrasser. La magie n'étant pas répartie équitablement entre les individus, elle représente un danger qu'il faut éradiquer, puisque la vie d'un être humain doit être rigoureusement identique à celle de tous ses semblables. En accord avec cette philosophie, l'ordre cherche logiquement à éliminer tous les sorciers et toutes les magiciennes. Et son objectif, au moins en principe, est d'améliorer le monde tout en le rendant plus sûr. Bien qu'appartenant au camp opposé, tu as raisonné comme un membre de l'ordre. Oui, parce que j'avais un pouvoir, tu as tenté de m'isoler. Car tu voyais mon don comme une menace pour l'humanité. C'était ton choix, mais dans ce cas, pourquoi combattu pour l'existence et la liberté des autres détenteurs du don? Tu m'as privé de tout ça,
Et tu t'engages pour que d'autres y aient droit?
Je pense que les loups, des enfants du Créateur, ont le droit de chasser, puisqu'il les a conçus pour ça. Cela dit, je n'ai aucune intention de figurer sur leur menu.
Je ne suis pas un loup, Anna, mais un homme.
Tu m'as jugé, déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Et pourquoi?
Parce que tu redoutais, sans raison objective, que j'utilise mal mon pouvoir. Pour soulager ta conscience, tu m'as enfermé dans une cage dorée et tu t'es présenté comme une ardente partisane de la liberté, pour d'autres que moi et dans un avenir très lointain.
Ma prison te semblait une bonne chose parce qu'elle était luxueuse et confortable. Mais c'était un moyen de t'aveugler sur ce que tu faisais vraiment.
Regarde autour de toi, Anna. Il n'y a aucune différence entre ce cachot et ce que fut ma cage. Fondamentalement, ce sont des lieux qui empêchent les gens de mener leur vie comme ils l'entendent. Parce que mon pouvoir te déplaisait, tu t'es comporté exactement comme l'ordre. Et comme lui, tu as décidé de sacrifier au nom du bien commun des êtres dotés d'un potentiel extraordinaire. Qu'importe la manière dont tu as décoré mon cachot, Anna. Vu de l'intérieur, il ressemblait trait pour trait à ce trou puant.
Avant de parler, Anna prit le temps de choisir ses mots et de contrôler le ton de sa voix.
Pendant que je croupissais dans cette cellule, j'ai cru avoir compris certaines choses, mais je me suis trompé. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais sûrement pas tout saisi. Depuis le début, je me sentais mal à l'aise de t'avoir emprisonné, mais je ne me suis jamais demandé si c'était un acte rationnel et motivé. Tu as raison, Nathan. J'ai vu en toi un grand potentiel de nuisance. Mais j'aurais pu t'aider à bien agir, au lieu de m'attendre au pire et de t'enfermer dans des oubliettes de luxe. Je suis désolé, mon ami.
Tu parles sincèrement, Anna ?
Demanda le prophète, les poings plaqués sur les hanches. Des larmes aux yeux, la dame abbesse hocha simplement la tête. Alors qu'elle avait toujours exigé l'honnêteté chez les autres, elle s'était aveuglée sur son propre compte et c'était impardonnable.
« Oui, Nathan, plus sincèrement que jamais. »
Son autocritique achevée, la vieille femme retourna s'asseoir sur le banc de pierre.
« Merci d'être venue, sorcière Al. Désormais, je ne vous dérangerai plus, et je subirai sans me plaindre un châtiment amplement mérité. Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais être seule à présent, afin de prier et de continuer mon examen de conscience.
Tu te flagelleras plus tard. Allez, lève-toi, vieille peau, et ramasse tes affaires en vitesse. Nous avons du pain sur la planche.
« Quelle mouche te pique ?»
demanda Anna le front plissé.
« Personne ne m'a piqué. Mais nous avons du travail, femme, et chaque minute est précieuse. Vas-tu enfin te lever ?»« Anna,
nous combattons dans le même camp.
Pour avoir une chance de vaincre, nous devons collaborer. »
Nathan haussa les épaules.
Sauf si tu as décidé de rester sur tes fesses jusqu'à la fin des temps. Sinon, dépêche-toi un peu parce que nous avons un gros problème.
Un problème ?
Demanda Anna en se levant d'un bond.
De quel genre ?
Des ennuis à base de prophéties.
Quoi ? Quel problème ? Et avec quelle prédiction ?
L'air courroucé, Nathan foudroya la dame abbesse du regard.
« Je ne peux pas t'en dire plus. Les prophéties ne sont pas pour les oreilles des profanes. »
Alors qu'elle allait exploser, traitant Nathan de tous les noms d'oiseaux de la création, Anna remarqua le petit sourire qui flottait sur les lèvres de son vieil ami.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle d'un ton amical et conciliant. Un code pour indiquer à Nathan qu'elle était prête à faire table rase du passé et à repartir sur de bonnes bases.
Anna, tu ne vas pas en croire tes oreilles. C'est encore ce fichu gamin.
Richard?
Tu connais un autre gamin aussi doué pour se fourrer dans la mélasse?
Tu sais, je ne pense plus à lui comme à un gamin.
Tu as raison, je suppose. Mais à mon âge, il est difficile de dire « homme » quand on parle d'un genou pareil.
Pourtant, c'est bel et bien un homme,
assura Anna.
Sans doute, sans doute. Et un râle en plus de ça.
Dans quel guépier s'est-il fourré ce coup-ci?
Nathan se rembrunit.
Il s'est écarté du chemin des prophéties.
Pardon? Que racontes-tu là? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Ce que ça dit, mon ami. Il s'est éloigné des prophéties. En d'autres termes, il se dirige vers un endroit où elles n'existent pas.
Plaît-il?
Anna ne doutait pas de la sincérité du prophète qui semblait authentiquement perturbé, mais son discours n'avait pas de sens. C'était en partie pour ça que bien des gens le redoutaient. Souvent, il donnait l'impression de délirer alors qu'il invoquait des choses qu'il était le seul à pouvoir comprendre. Parfois, les capacités intellectuelles d'un prophète dépassaient de loin celles du commun des mortels, et ses yeux voyaient ce que des gens normaux ne distinguaient pas. Ayant passé sa vie au contact des prophéties, Anna était en général capable de saisir les grandes lignes des discours de Nathan, mais là, elle se sentait totalement larguée.
« Comment peux-tu le savoir si aucune prophétie ne mentionne où il va ? Et comment les prédictions pourraient-elles connaître l'existence d'un lieu où elles n'existent pas, justement ?»«
Au palais du peuple, les bibliothèques regorgent de grimoires que je n'avais jamais pu consulter. Je connaissais l'existence de certaines prophéties décalées, mais je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elles pouvaient dire. Depuis mon arrivée, je les étudie. » Et j'ai fait des recoupements avec les textes que nous détenions dans les catacombes du palais des prophètes. Les prophéties que j'ai découvertes ici comblent les lacunes des prédictions sur lesquelles je travaillais jusque-là. Plus important encore, j'ai découvert une nouvelle branche de prophétie qui explique pourquoi et comment j'ai pu passer à côté de choses évidentes. En étudiant les fourches, et les inversions de cette ramification, j'ai établi que Richard, par une série d'étapes intermédiaires, s'est engagé sur un chemin qui le conduit vers l'oubli. Une bifurcation des prophéties, si tu préfères, menant à une ligne temporelle qui, selon moi, n'existe pas et n'existera jamais. En un mot, le néant.
Une main sur la hanche et l'autre dessinant des arabesques dans l'air, Nathan réussit l'exploit de marcher de long en large dans la minuscule cellule.
Cette affaire est liée à des réalités dont j'ignorais tout, à part qu'elles devaient exister, mais qu'elles étaient en quelque sorte manquantes. À présent, je sais pourquoi. Ces prédictions sont terriblement dangereuses, et il valait mieux qu'elles soient gardées secrètes. Même si j'en avais eu connaissance il y a des années, ça n'aurait rien changé, car je les aurais mal interprétés. Ces nouvelles branches ont tout un rapport avec le vide. À cause de sa nature même, le vide ne peut être appréhendé par un cerveau humain. Une pareille contradiction est inconcevable. Et pourtant... Richard est allé dans cet étrange néant où les prophéties ne peuvent ni le voir ni l'aider. Pis encore, elles ne peuvent plus nous aider. Comprends-tu la situation? Je ne parviens plus à voir Richard avec l'assistance des prophéties, mais ce n'est pas le plus grave. À l'heure qu'il est, l'endroit où il se trouve et les actes qu'il accomplit n'existent pas. Bref, il s'est engagé sur une voie qui risque de mettre un terme définitif à tout ce que nous connaissons.
Anna connaissait assez Nathan pour savoir qu'il n'en aurait pas rajouté sur un sujet si grave. Même si elle ne saisissait pas très bien de quoi il parlait, l'idée générale lui donnait des frissons glacés dans le dos.
« Et que pouvons-nous faire ?»«
Le rejoindre,
et le ramener dans le monde qui existe. C'est la seule solution.
Tu veux dire le monde dont les prophéties affirment l'existence ?
Nathan foudroya la dame abbesse du regard.
Bien entendu. Il te faut un dessin maintenant. Nous devons le ramener sur la branche de la prophétie qu'il est censé suivre.
Et si nous échouons ?
Nathan ramassa la lanterne, puis il s'empara du sac d'Anna.
Il cessera de faire partie du présent et de l'avenir, tel que les définissent les prophéties. En d'autres termes, il n'aura plus aucune influence sur l'histoire de ce monde.
Tu veux dire qu'il mourra ?
Bon sang ! Me suis-je adressé au mur ou à une dame abbesse ? Bien entendu qu'il mourra. Si ce gosse dévie du bon chemin et brise tous ses liens avec les prophéties où il a un rôle à jouer, il videra de toute réalité ces branches-là des prédictions. S'il agit ainsi, ces textes deviendront de fausses prophéties, puisqu'aucun des événements prévus ne se réalisera. Tu me suis ? Pas une autre ramification ne contient l'ombre d'une allusion à Richard. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au point de départ de ces branches-là, il aura cessé d'exister.
Et que prédisent les fourches où il n'est pas à présent ?
Nathan prit la main d'Anna et la tira vers la porte.
Des âges terribles, où l'obscurité régnera sur chacun d'entre nous. Pour toutes les créatures vivantes, ce sera un long cauchemar.
Attends une minute,
lança Anna en tirant sur la manche du prophète. Elle retourna près du banc de pierre et posa le Radahan dessus.
Je n'ai pas le pouvoir de détruire cet objet. Il vaudrait peut-être mieux qu'il ne sorte plus d'ici.
Nathan parut séduit par cette idée.
Nous allons fermer la porte et dire aux gardes que ce collier doit rester jusqu'à la fin des temps dans la cellule.
Anna brandit soudain un index devant le nez de Nathan.
« Tu n'as pas de collier, c'est entendu, mais n'imagine pas que je te laisserai faire n'importe quoi. »
Le prophète sourit et ne protesta pas. Avant de franchir la porte, il se tourna vers Anna.
« As-tu communiqué avec Verna ces derniers temps ?»«
Quelques messages, oui. Elle est avec l'armée et elle a du pain sur la planche. » Jagang a commencé son siège et il faut défendre l'école qui conduit en Dara.
D'après ce que m'ont dit les chefs militaires du palais, ces cols tiendront un bon moment.
Nathan se pencha vers Anna.
Il faut que tu envoies un message à Verna, cependant. Lorsqu'un chariot vide roulera vers les lignes d'Aran, les soldats devront le laisser passer.
« Pardon, tu ne peux pas être un peu plus clair ?»«
Les prophéties ne sont pas pour les oreilles des profanes. Transmets-lui simplement mon message. »«
D'accord, »
fit Anna tandis que le prophète lui faisait franchir l'étroite porte.
« Mais je ne lui dirai pas que ce conseil vient de toi, car ça l'inciterait à passer outre. Elle te prend pour un dingue, tu sais. »
« Elle n'a jamais eu l'occasion de me connaître vraiment, c'est tout. Si elle avait su que mon incarcération était injustifiée... »
Anna faillit dire que Verna connaissait peut-être trop bien Nathan, au contraire. Mais elle jugea inutile de jeter de l'huile sur le feu. Alors que le prophète s'apprêtait à passer la deuxième porte, elle le tira de nouveau par la manche.
« Nathan !» Que me caches-tu sur cette prophétie qui prédit la disparition de Richard ? Qu'as-tu dit déjà ? Tomber dans l'oubli ?
Anna connaissait assez bien son ami pour être sûre qu'il ne lui avait pas tout révélé. Sans doute jugeait-il galant de lui épargner des soucis et elle ne pouvait pas l'en blâmer, mais elle devait savoir. L'air très grave, Nathan dévisagea longuement sa vieille complice.
« Sur cette fourche de la prophétie, on rencontre un chapardeur.
Anna plissa le front, cherchant dans sa mémoire ce que signifiait ce nom.
Un chapardeur, un chapardeur. Bon sang, je devrais savoir.
Elle claqua soudain des doigts.
Créateur bien-aimé, un chapardeur.
J'ai bien peur que le Créateur n'ait rien à voir là-dedans.
Anna eut un geste d'impatience.
C'est impossible. Ta nouvelle prophétie se trompe. Les chapardeurs ont été créés lors des grandes guerres. Comment pourrait-il en avoir un sur une fourche de cette prophétie? Ta prédiction doit être obsolète depuis des lustres. Oui, c'est probablement ça l'explication.
Non, en aucun cas. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Me prendrais-tu pour un vulgaire amateur? J'ai vérifié 100 fois la chronologie et utilisé toutes les méthodes de calcul que je connais. Pour cette occasion, j'en ai même inventé une ou deux. Tout concorde, Anna. Les maillons de la chaîne temporelle sont en place et la prédiction est en phase avec notre époque.
Alors, c'est une fourche illusoire. Les chapardeurs étaient des hybrides magiciens stériles. Ils ne pouvaient pas se reproduire.
Et moi, je persiste et signe. Il y en a un sur cette fourche.
Aucun chapardeur n'aurait pu survivre jusqu'à maintenant,
affirma Anna. Si Nathan était un expert en prophétie, elle était une des meilleures spécialistes en matière de créatures magiques. Sur ce sujet, elle avait plusieurs longueurs d'avance sur le prophète.
Les chapardeurs ne pouvaient pas avoir d'enfants,
insista-t-elle. Nathan eut un de ces regards en coin que la dame abbesse détestait.
Et moi, je te dis qu'il y en a un dans l'entourage de Richard.
Nathan, les voleurs d'âmes ne pouvaient pas se reproduire.
La prophétie dit qu'il n'est pas né ainsi, mais qu'il est devenu un chapardeur.
Anna en eut la chair de poule et en resta muette quelques secondes.
« Depuis 3000 ans,
dit-elle enfin,
aucun sorcier n'est né avec les deux facettes du don. Richard est le premier. Il est donc impossible que... »
La dame abbesse se tut.
Oui, ça y était. Elle comprenait.
« Créateur bien-aimé,
soupira-t-elle.
Ne t'ai-je pas dit qu'il n'est pour rien là-dedans?
Le chapardeur a été engendré par les sœurs de l'obscurité. »
Bouleversée, Anna ne sut que dire. Face à un chapardeur, il n'existait pas de défense. Aucune âme ne pouvait lui échapper. Dans le couloir, Nida attendait le prophète et sa compagne. Pour une fois, la mort de Sith ne parvenait pas à avoir l'air plus sinistre que la dame abbesse. Dans la pénombre, le cuir rouge de son uniforme évoquait du sang séché. En passant devant Nida, Anna se pencha vers elle et souffla.
« Vous lui avez dit tout ce que je vous avais demandé de lui transmettre, n'est-ce pas ?»«
Bien entendu, »
répondit la mort de Sith en emboîtant le pas à la dame abbesse que Nathan tirait toujours par la main. Se retournant à demi, Anna braqua un index accusateur sur la femme blonde.
« Je te ferai regretter de lui avoir tout dit. »«
Voilà qui m'étonnerait, »
répondit simplement Nida. Anna lui fit de gros yeux, puis s'adressa à Nathan.
« Au fait, que fiches-tu avec une épée? Depuis quand un sorcier a-t-il besoin d'une arme ?»
« Eh bien, »
répondit le prophète, un rien vexé,
« Nida me trouve superbe avec une lame au côté. »«
Oui, oui, je vois, »
marmonna la dame abbesse, les yeux rivés sur le couloir obscur devant elle.